c'est top de se dire je vais m'amuser, mais encore une fois, l'erreur de ce raisonnement-là, ça pourrait être de se dire je vais prendre un rêve qui me plaît pas et je vais essayer de me persuader qu'il faut que je m'amuse pour y arriver. Alors que...
Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast.
Charles Darwin, qui est considéré aujourd'hui comme certainement un des plus grands scientifiques de l'histoire. Charles Darwin, son père, pensait que son fils avait un problème. Il n'y arrivait pas scolairement, il ne travaillait pas, il n'était pas motivé. Et son père se disait, mais est-ce que ça va devenir un bon à rien mon fils? Mais quand tu regardes l'histoire de Darwin depuis sa tendre enfance, il était fasciné par collecter tout ce qui était relié à la vie. Donc, il stockait des coquillages, il récupérait, il ramenait à la maison des carcasses d'animaux. Donc, son père, il se disait, mais qu'est-ce qu'il a, mon fils, à faire ça? Et il voyait pas le temps passer quand il était en train d'essayer de comprendre en regardant une carcasse d'un oiseau, en regardant une plante, comment elle a grandi. Il passait son temps à faire ça. Sauf que, comment la société, elle fonctionne? Dans sa tête, à Charles Darwin, et dans la tête de sa famille, et dans la tête de la société, il n'y avait pas de case, tu vois, il n'y avait pas de case d'un métier où t'es censé récolter des carcasses et récolter des espèces vivantes ou mortes. Et son père, il essayait absolument que son fils, il ait, tu vois, il ait un avenir, donc il lui dit, tiens, essaye d'aller dans telle école, ça devrait au moins t'assurer d'avoir un job plus tard. Et Charles Darwin entend une annonce comme ça, d'un poste pour aller faire un tour du monde, dont les chances de survie sont très faibles, parce qu'à l'époque, on n'est pas dans les bateaux d'aujourd'hui. Hein. C'est un tour du monde qui va durer, je sais plus, je crois, c'est 10 ans, enfin, c'est un truc immense. Donc, non rémunéré, les chances de mourir hyper élevées. Il va se retrouver seul. L'objectif, par contre, de ce tour, c'est d'aller à plein d'endroits de la planète et justement récolter des morceaux de coquillages, de la terre, des espèces vivantes. Et il va dire oui tout de suite. Son père, il comprend pas. Il dit, mais en fait, tu as des grandes chances de mourir et tu vas pas être rémunéré et tu vas vers ça. Et en fait, c'est dans ce voyage-là où, sur le coup d'ailleurs, c'était hyper dur parce qu'il avait un énorme mal de mer, il n'était pas bien, il avait envie d'abandonner, il avait peur de mourir. Donc là, on voit que son père ne croit pas en lui, il n'est pas rémunéré, il est 6 mois en bateau, il ne se sent pas bien. Mais malgré ça, il a envie de continuer. En plus de ça, il est dans une époque, il faut se rappeler le contexte, où la religion, elle a une énorme place. Et je ne sais plus, je crois que c'est vers l'Amérique du Sud. Il est au sommet d'une île et au sommet d'une île, il reconnaît des coquillages qu'il retrouve d'habitude vers la mer. Et c'est ça qui va lui créer un déclic, il va se dire, mais comment c'est possible qu'on ait des coquillages et des carcasses que d'habitude je retrouve en pleine mer et que je les retrouve finalement en haut d'une colline. Et de ça, il va commencer à se dire, mais tiens, mais peut-être que la théorie de la religion, elle n'est pas complètement vraie dans la manière dont la Terre s'est créée. Et ça va lui demander de faire face à une adversité qui est dingue, parce que sur son bateau, il a un fervent croyant qui du coup est hyper strict et hyper fermé dans sa vision. Mais malgré ça, il va persévérer et créer le livre, justement, The Origin of Species. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Charles Darwin, c'est que s'il s'était demandé de réussir comme son père ou dans d'autres domaines, il se serait dit quoi? J'ai un problème de motivation. Je manque de volonté. Oh, j'arrive pas à jouer dans ce que je fais. Alors qu'il y avait déjà un endroit dans sa vie où naturellement, sans forcer, c'était déjà un jeu pour lui. Et parce qu'il a mis de l'énergie là-dessus, il s'avère que, avec le temps, il a été reconnu comme un des plus grands scientifiques. Et ça, c'est hyper intéressant. Le jeu, du coup, c'est pas quelque chose que je vais presque décider, c'est plus que quelque chose que je vais découvrir. Il y a des endroits où, dans ma vie, c'est un jeu. Moi, par exemple, la psychologie, c'est un jeu. J'adore comprendre la psychologie, j'adore comprendre ce qui se passe dans la tête des personnes. Je recrute 2 chercheurs, je passe du temps à essayer de lire leurs études scientifiques. C'est quelque chose qui, pour plein de personnes, serait horrible. Mais ce qui est drôle, tu vois, par exemple, c'est qu'il y a plein de personnes qui voient ma notoriété et mes finances, qui m'écrivent en disant « Ah, j'adorerais avoir ta vie. » Mais en fait, ils détesteraient avoir ma vie. Ce qu'ils aimeraient, c'est l'image qu'ils ont de ma vie. Mais ils détesteraient passer, je sais pas, je lis à peu près 1 heure par jour de choses qui sont sur le cerveau, la science, la psychologie. Ils n'auraient pas envie de ça. Ils veulent l'idée qu'ils ont de ma vie. Et donc voilà, la première chose, c'est à quel point c'est hyper intéressant de se détacher des rêves que tu poses sur le papier qui semblent être des rêves qui sonnent bien. Et souvent, tu fais ça parce que, pour revenir sur Charles Darwin, Ça demande un acte d'amour envers soi et c'est un acte de courage de dingue de faire confiance que le truc qui t'inspire, pour l'instant, il n'a pas de case à l'extérieur. Et de se dire, ce truc-là m'inspire, je vais y dédier de l'énergie, je vais y dédier du temps, je vais essayer de devenir meilleur là-dedans et de faire confiance qu'avec le temps, ça va payer. Mais on est dans une société où on veut tellement du court terme que du coup, on copie ce que fait le voisin, on s'auto-sabote en pensant qu'on a un problème de motivation. Enfin, c'est assez incroyable ce truc-là. Et c'est vraiment quelque chose que tu retrouves chez les personnes qui arrivent à créer des trucs incroyables, c'est à quel point ils font confiance dans miser sur ce qui les inspire vraiment et pas ressembler à ce qu'il y a à l'extérieur. Tu vois, Steve Jobs, par exemple, Apple a autant marché parce qu'il a eu le courage de créer une boîte d'informatique qui ressemble pas à Microsoft. C'est-à-dire que ça paraît facile à la fin de l'histoire de se dire que c'était stratégique. Mais quand Steve Jobs prend des cours de calligraphie et qu'il s'intéresse au dessin, ça paraît être une perte de temps, en fait. Ça paraît être un truc inutile, ça paraît être un truc qui va servir à rien. Mais il va s'avérer que son amour du design va participer énormément au succès d'Apple et au fait qu'Apple devienne une boîte qui est sexy et à la mode. Mais combien de temps il va s'écouler avant que ça soit ça, en fait ? J'ai des centaines d'histoires comme ça. Par exemple, j'ai perdu son nom, mais c'est une danseuse qui, pendant 10 ans, essayait de mélanger différents types de danse à une époque où on n'est que dans la danse classique. C'est celle qui va générer le mouvement de danse moderne. Aujourd'hui, c'est une icône dans la danse moderne. Et en fait, pendant des années, elle essaye de mixer des danses qui n'ont rien à voir et tout le monde lui dit que c'est nul ce qu'elle fait. Mais avec le temps, parce qu'elle suit plutôt ce qu'elle aime profondément, elle va réussir à mixer et créer une danse qui est inédite, qui est nouvelle et devenir une icône. Mais ça va prendre 10 ou 15 ans dans son cas. Et en fait, l'histoire est remplie d'exemples comme ça, de personnes dans la musique qui vont mixer différents types de musique, dans l'art qui vont mixer différents types d'art. Mais à chaque fois, ça demande de passer par cette traversée du désert où toi-même, t'as l'impression que ce que tu fais, ça sert à rien, que les autres les critiquent, que ça donne des échecs. Mais qu'est-ce qui fait que tu continues ? Parce que tu es nourri par le simple fait d'avancer dans ce domaine-là. Et c'est ça, pour moi, qui me tient le plus à cœur, c'est accompagner mes clients à avoir le courage de faire tranquillement, et pas besoin que ce soit extrême, hein, tranquillement, chaque année, un pas de plus vers une vie qui les inspire un peu plus dans le présent, pas demain. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. » En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant. Et pour la trouver, tape dans Google « David Laroche, les 5 erreurs cadeau. » « David Laroche, les 5 erreurs cadeau. » Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.